Radio Prague, les informations.
Bonjour les amis et bienvenue à l'écoute de ce bulletin d'information. Les principaux titres ce lundi. Les premiers Ukrainiens d'origine tchèque arrivent en République tchèque. La vaccination restera une condition d'accès à l'école maternelle. Et ouverture à Prague du 17e festival du film documentaire sur les droits de l'homme, Jeden Svět. Le premier groupe d'Ukrainiens d'origine tchèque, dont le rapatriement en République tchèque a été autorisé par les autorités tchèques, a quitté la ville de Novorodkivka, dans le sud-est de l'Ukraine, ce lundi pour rejoindre Prague. Une quarantaine de personnes se trouvent dans l'autocar. Elles devraient arriver ce mardi après un voyage long de 40 heures. Fondée par des émigrés tchèques en 1869, la ville de Novorodkivka s'appelait initialement Tchechohrad. Après de longs mois d'hésitation, la République tchèque a accepté le rapatriement de près de 180 Ukrainiens d'origine tchèque qui souhaitent rentrer dans leur pays d'origine en raison du conflit en Ukraine. La Cour constitutionnelle a rendu une nouvelle décision à propos de la vaccination qui restera pour les enfants une condition d'accès à l'école maternelle. Les juges ont motivé leur verdict par le profit que constitue la vaccination pour toute la société. Ils ont considéré également, au regard des recherches scientifiques contemporaines, que le risque de séquelles pour les enfants était minime. La Cour se penchait sur la plainte d'une femme dont l'enfant non vacciné s'est vu refuser l'accès à deux écoles maternelles. Le cas pourrait désormais être porté devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Déjà la semaine passée, les juges constitutionnels tchèques ont estimé que le ministère de la Santé était dans son droit en imposant la vaccination obligatoire contre certaines maladies et que les parents contrevenants devaient être sanctionnés financièrement. Le ministère du Travail et des Affaires Sociales souhaite réformer le système d'allocation dans le domaine du logement. Les deux aides qui existent actuellement, gérées par le Bureau du Travail, pourraient ainsi être fondues dans une prestation sociale unique. Ce changement doit intervenir dans le cadre de la conception d'une loi sur le logement social, système jusqu'alors inexistant. Le texte devrait être voté courant 2016 et entrer en vigueur début 2017, avec pour objectif de pouvoir à terme loger 500 000 personnes dans des habitations à loyer modéré. La chaîne de distribution britannique Tesco envisagerait de quitter certains pays d'Europe centrale, dont la Tchéquie et la Slovaquie. C'est ce qu'écrit ce lundi le quotidien slovaque SME, qui évoque les différents scénarios qu'envisagerait l'entreprise en période de difficultés liées à la chute de ses ventes. Selon le quotidien, outre la Tchéquie et la Slovaquie, Tesco pourrait également réduire ses activités en Pologne et en Hongrie. Le porte-parole de la société, Matt Francis, a indiqué ne pas vouloir commenter ces spéculations. Tesco emploie 10 000 personnes en Slovaquie et 14 000 en République tchèque, où deux magasins sont déjà menacés par des plans de licenciement. Du documentaire à présent, le traditionnel festival international sur les droits de l'homme, Jeden Svět, un monde en français, démarre ce lundi à Prague. 144 films documentaires en provenance de 59 pays figurent au programme de cette 17e édition qui refermera ses portes le 11 mars prochain, dans la capitale, avant de se poursuivre dans une trentaine d'autres villes tchèques de province, ainsi qu'à Bruxelles. Denisa Tomanova vous en dit plus dans quelques instants. Avant cela, on termine pour notre part avec la météo. Le ciel se dégage en ce mardi, jour de la fête des Camilles, de telle sorte que des passages ensoleillés alternent avec des phases plus nuageuses. Les températures maximales vont jusqu'à 6 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information que vous présentait Pierre Ménian. Mais ce n'est pas la fin de notre programme. Je passe le relais à Denisa Tomanova.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à vous tous, chers amis, et bienvenue sur Radio Prague pour votre magazine d'actualité tchèque. Je tiens tout d'abord à remercier Pierre pour son très intéressant bulletin d'information. Au programme de ce début de semaine, retour d'abord sur le 3e congrès du mouvement ANO, à l'occasion duquel Andrej Babiš, qui est également à l'heure actuelle vice-premier ministre et ministre des Finances, a été réélu à la tête du parti avec 100% des voix. Le congrès a notamment été témoin de nombreuses critiques émises à l'encontre du Parti social-démocrate, et c'est Lucia Drexelova qui vous livrera donc plus de détails sur le sujet dans quelques instants. Puis nous parlerons culture, un des plus grands festivals du film documentaire au monde démarre ce lundi à Prague pour se poursuivre par la suite dans 33 autres villes tchèques. L'occasion pour nous de vous présenter cet important événement culturel où 114 documentaires seront présentés au grand public. Et en dernière partie de notre programme, rendez-vous comme tous les lundis avec l'actualité sportive de Guillaume Narguet qui vous parlera pour cette fois de Jaromír Jágr, un des plus grands joueurs de hockey sur glace tchèque. Vous êtes bien sûr Radio Prague, très bonne écoute à toutes et à tous. Andrej Babiš, actuel vice-premier ministre et ministre des Finances, a de nouveau démontré ce week-end que c'est bien lui qui tient les rênes de son parti. Lors du congrès du mouvement ANO, le richissime homme d'affaires, converti à la politique depuis quelques années, a été réélu président de l'une des deux principales formations de la coalition gouvernementale en recueillant 100% des voix. Les nouveaux statuts d'ANO, mouvement populiste d'orientation libérale, marquent une plus grande centralisation de son pouvoir de décision. Mais d'un point de vue idéologique, le parti reste dans le flou. Plus de détails sur ce sujet avec Lucia Drexlova.
Le congrès, le troisième du nom, s'est tenu dans les locaux pragois du géant agroalimentaire Agrofert, histoire peut-être de ne pas oublier que le chef de la deuxième force principale à la Chambre des députés reste aussi le chef d'une société qui brasse les milliards et que c'est avec le même style qu'il entend diriger son parti, son ministère des Finances et aussi, tant que faire se peut, le gouvernement. En tête du programme des délégués présents au Congrès figurait l'élection, ou plus précisément la réélection du leader du parti et de ses collaborateurs les plus proches. Certains postes de vice-président étant restés vacants depuis 2 ans, 7 figures réputées pour leur loyalisme envers leur chef ont été élues à l'étage inférieur de la direction, parmi lesquelles notamment Jaroslav Faltinek, chef du groupe parlementaire ANO à la Chambre des députés, Jaroslava Jermanova, vice-présidente de la Chambre basse, ou encore Radmila Kleslova, leader du mouvement à Prague. Unique candidat à sa succession, la réélection d'Andrej Babiš par 186 voix sur 186 s'est apparentée à un plébiscite qui n'aurait pas déplu aux anciens dirigeants communistes du pays. Andrej Babiš n'a d'ailleurs pas manqué d'exprimer une petite gêne par rapport à ce résultat.
Je suis un peu embarrassé d'avoir été élu au poste de président en recueillant la totalité des voix, même si c'est logique car je n'avais pas d'adversaire. Mais j'ai été élu à l'issue d'un vote à bulletin secret et je suis vraiment surpris d'avoir obtenu 100% des suffrages. Cela peut sembler bizarre, mais croyez-moi, si j'avais su, j'aurais demandé à au moins 2 ou 3 collègues de voter contre moi, car là je suis vraiment un peu embarrassé.
Il est néanmoins fort peu probable que les 2 ou 3 voix de faux opposants auraient modifié l'impression générale laissée à la majorité des commentateurs et observateurs extérieurs du Congrès, à savoir que son déroulement avait été dûment orchestré. Dans ce sens, tous ont notamment relevé l'absence quasi totale de débat. Les délégués n'ont pas même discuté des amendements au statut de parti qui aboutissent à une plus grande centralisation des pouvoirs. Ainsi, des compétences renforcées ont été conférées à la direction du parti. C'est désormais elle et elle seule qui décidera des chefs régionaux de ANO, une désignation généralement laissée aux comités locaux. La direction sera également amenée à évaluer toute demande d'adhésion au mouvement. Son président, quant à lui, a le champ libre pour décider du sort de chaque membre de la formation. Dans son discours d'une 20aine de minutes, Andrej Babiš est revenu sur certaines des priorités politiques de son mouvement. Il s'est exprimé en faveur de l'introduction d'un scrutin majoritaire, de la suppression du concept de salaire super brut et contre toute hausse d'impôts. Le président du parti a également souligné que seules les personnes ayant suffisamment bien réussi dans leur vie professionnelle pour ne plus avoir besoin de profits supplémentaires devraient s'engager en politique. La suite du discours d'Andrej Babiš a été consacrée à la critique de celui qui est à la fois son principal partenaire de coalition et son principal rival électoral, le Parti social-démocrate. Une façon pour certains analystes de déjà lancer la campagne électorale pour les régionales de 2016.
Ve vládě teď sedím a rozhodně ne vždy pohodlně,
Nous siégeons au gouvernement avec la social-démocratie et ce siège n'est pas toujours confortable. C'est un parti politique établi, paradoxalement un parti parmi ceux contre lesquels notre mouvement s'est constitué. Son passé controversé pèse sur la social-démocratie qui est habituée à acheter le soutien électoral en dépensant l'argent public sans tenir compte du budget de l'État et de l'endettement du pays. Son objectif est d'augmenter les impôts, ce que nous refusons.
La plupart des commentateurs s'accordent sur le fait que les idées de Hanon restent floues. Pour ses partenaires de coalition, cette absence de vision à plus long terme se traduit par son caractère imprédictible. Mais pour le mouvement, cela permet aussi d'attirer et de rassembler sous une même bannière des électorats éclectiques aux intérêts différents.
La très attendue 17e édition du Festival international du film documentaire Jeden Svět, un monde, démarre ce lundi à Prague. Dans 8 salles pragoises, ce festival, qui compte parmi les plus significatifs, portant sur les droits de l'homme, propose des regards divers et variés sur la situation politico-sociale du monde à travers la projection de 114 documentaires provenant de 59 pays. Organisé par l'ONG Člověk v tísni, l'homme en détresse, le festival a notamment pour slogan cette année « Praskněte své bubliny », « Faites éclater vos bulles » en français. Le dramaturge du festival, Andrzej Moravec, a expliqué le pourquoi de ce slogan.
Ce que nous voulons exprimer par cet intitulé, c'est que les gens ont tendance à s'installer confortablement dans leur petit nid douillet où ils vivent en toute tranquillité comme s'ils n'étaient pas concernés par leur entourage ou par les problèmes mondiaux. Donc, par le biais de ces films, nous essayons en quelque sorte de les libérer de leur bulle.
La propagation de l'islamisme radical constitue un des thèmes évoqués pendant le festival. Le documentaire danois de Søren Steen Jespersen, Warriors from the North, les guerriers du Nord, qui évoque le départ de jeunes Somaliens nés de parents réfugiés en Scandinavie pour rejoindre des militants islamistes, sera mis à l'honneur lors de la cérémonie d'ouverture ce lundi soir au cinéma Lucerna. Les organisateurs du festival s'apprêtent notamment à présenter au grand public le documentaire de Laura Poitras intitulé Citizen 4. Ce film sur l'informaticien Edward Snowden, qui a révélé des documents classés secrets défense de l'Agence nationale de la sécurité concernant des programmes de surveillance de masse américains et britanniques, a obtenu cette année l'Oscar du meilleur documentaire. À propos de ce film exceptionnel qui a pris naissance grâce à l'initiative d'Edward Snowden, ayant lui-même contacté la réalisatrice, Andrzej Moravec a indiqué.
On me demande sans cesse si le film fait l'éloge d'Edward Snowden ou si au contraire il dresse un portrait critique. Dans la mesure où le documentaire montre Edward Snowden enfermé dans une chambre à Hong Kong, il s'agit d'un portrait très intime. C'est de cette façon que nous l'observons. Donc chacun doit se construire sa propre opinion quant à savoir s'il est un héros positif ou négatif.
Comme de tradition, pendant toute la durée du festival, jusqu'au mercredi 11 mars, différents thèmes seront également abordés en conférences et débats, comme par exemple celui de l'éducation ou des troubles mentaux. Cette année, les organisateurs ont notamment préparé une rétrospective de documentaires produits en ex-Yougoslavie. Des projections se tiendront également au Ciné 35 de l'Institut français de Prague, rue Štěpánská. Au micro de Radio Prague, la directrice de l'Institut, Isabelle Guinel, a précisé l'importance de la coopération entre l'Institut et le festival Jeden Svět.
Pour nous, c'est une grande fierté d'être partenaire de Jeden Svět. Nous nous y présentons des documentaires français qui seront projetés dans ce cadre. Il y en a un sur caricaturiste fantassin de la liberté. Et en ce moment, c'est particulièrement important. Il y en a un autre sur les hommes éléphants. Il y en a un troisième sur la Tchétchénie. Pour cette 17e édition, je dirais qu'en plus, au fil du temps, ce partenariat qu'on a initié quand Jeden Svět était encore à ses débuts, maintenant, c'est quand même devenu le plus grand festival au monde, le festival documentaire sur les droits de l'homme. Donc oui, c'est un partenaire qui nous fait honneur.
Parmi les nombreux invités à l'occasion figure notamment la chanteuse iranienne Sarah Najafi, qui se bat pour la possibilité pour les femmes de chanter en public, activité interdite dans son pays. Cette année, le prix pour les droits de l'homme, Homo Homini, attribué depuis 1994 par l'ONG Człowiek w Tisni, sera remis en main propre ce lundi soir à la militante syrienne Suad Nafal, qui s'est fait connaître pour ses protestations publiques contre l'État islamique. Après les projections dans les salles de la capitale, le festival se poursuivra dans 33 autres villes tchèques, dont České Budějovice, Tábor, Znojmo ou Olomouc. Pour plus d'informations sur l'événement, rendez-vous au www.oneworld.cz 2015. La question était dans l'air depuis quelques semaines déjà. Dans quelle franchise le phénoménal Jaromír Jágr allait donc bien finir la saison NHL, la prestigieuse ligue nord-américaine de hockey sur glace? La réponse est tombée en fin de semaine dernière. Le Tchèque, meilleur marqueur européen de l'histoire de la ligue, à savoir 1786 points en 1532 matchs, quittait les New Jersey Devils pour un état, la Floride, où la crosse et le palais ne sont certainement pas la principale des préoccupations. Et un club, les Panthers, certainement pas le plus sexy de la NHL. Mais après ses deux premiers matchs victorieux disputés ce week-end sous ses nouvelles couleurs, force est de constater que l'affaire est plutôt bien engagée. La rubrique sportive est signée Guillaume Narguet.
Sport en République tchèque.
L'information a fait la une de toutes les pages sportives des médias tchèques jeudi dernier. À Prague et partout ailleurs dans le pays, les faits et gestes de Jaromír Jágr, probablement le meilleur hockeyeur tchèque de l'histoire, sont suivis à la loupe depuis le début de sa carrière professionnelle et ses premiers pas en NHL au tournant des années 1980-90. L'annonce de son échange par les New Jersey Devils, franchise dans laquelle Jágr évoluait depuis deux saisons avec les Florida Panthers, en a donc surpris plus d'un, à commencer par le principal intéressé, comme il l'a confié samedi soir dernier lors de la conférence de presse qui a suivi son premier match sous son nouveau maillot frappé d'une panthère.
Cela a été un peu dingue. Jeudi après-midi, les dirigeants de New Jersey m'ont juste appelé pour me faire savoir que j'avais été échangé et que j'allais en Floride. Je suis donc rentré chez moi, faire mes valises, j'ai sauté dans le premier avion et je suis arrivé dans la nuit précédant le match. Ce n'est pas facile de disputer un premier match avec une nouvelle équipe sans le moindre entraînement et sans connaître ses partenaires, surtout un match aussi important car dans notre position actuelle, nous avons besoin de chaque point. Important game too. Like we need every point we can get. Gives to Jágr
to the forehand. Jágr shoots save. Jágr after the rebound. Malgré ce déficit d'automatisme et cette absence de repères dans son nouvel environnement, la première de Jaromír Jágr à Sunrise, là où les Panthers disputent leur rencontre à domicile, a plutôt été une réussite. Même sans inscrire le moindre point, l'ailier tchèque, qui a passé un peu plus de 17 minutes sur la glace, un temps de jeu auquel il n'était plus habitué ces derniers temps chez les Devils, a contribué à la victoire de Florida aux dépens de Buffalo 5-3. Aligné dans la première ligne d'attaque de son équipe, le vétéran Jágr, 43 ans, a évolué à côté de deux joueurs d'à peine 20 ans qui n'étaient même pas encore nés quand lui remportait ses deux coupes Stanley avec les Penguins de Pittsburgh en 1991 et 1992. Un constat qui ne gêne cependant pas le moins du monde, Jaromír Jágr.
C'est un rôle différent pour moi. Cela fait tant d'années que je joue au hockey que si on compte les matchs que j'ai disputés aussi en Europe durant ma carrière, je dois être un des hockeyeurs qui a joué le plus de matchs dans l'histoire. J'ai donc pas mal d'expérience à transmettre et beaucoup de jeunes coéquipiers dans ma nouvelle équipe. C'est un nouveau rôle excitant pour moi. C'est un peu comme une nouvelle vie. Vous savez, à mon âge, je sens et sais les choses qu'il faudrait faire sur la glace, mais je ne suis plus en mesure de les réaliser. C'est donc beaucoup plus facile de dire aux jeunes ce qu'ils doivent faire parce qu'ils ont encore de bonnes jambes et ils ont les mains pour le réaliser.
En
En Floride et à la différence de New Jersey, englué dans les profondeurs du classement de la conférence Est, la légende tchèque a rejoint une équipe certes jeune, mais surtout encore à la lutte pour terminer à la 8e et dernière place qualificative pour les playoffs de fin de saison. Un challenge qui n'est pas pour lui déplaire, comme il l'affirme lui-même, et qu'il est d'autant plus prêt à relever que ce n'est pas la première fois que Jaromír Jágr, passé par 8 franchises différentes en NHL depuis le début de sa carrière, finit la saison régulière dans un autre club que celui dans lequel il l'avait entamé.
C'est la troisième fois dans ma carrière que je suis échangé en cours de saison. Mais je suis aujourd'hui un peu plus vieux. Et c'est pourquoi je pensais quand même que les dirigeants de New Jersey viendraient consulter avec moi les offres qu'ils avaient des autres clubs pour me demander où je voulais aller. Mais personne ne m'a rien dit. D'un autre côté, je me mets aussi à leur place. Et je comprends qu'ils ne m'aient pas demandé mon avis. New Jersey ne pouvait pas refuser la proposition qu'on leur faisait. Cela fait partie de la carrière d'un joueur en NHL. Nous sommes une marchandise, même si cela m'a quand même un peu surpris.
Une marchandise qui, dans le cas présent, conserve une certaine valeur et pas la moindre. Car si New Jersey, largué dans la course aux playoffs cette saison, a accepté de se séparer de l'attaquant le plus expérimenté, évoluant actuellement en NHL, c'est en échange du choix de la franchise floridienne au deuxième tour de la prochaine draft, la sélection des meilleurs jeunes talents et d'un possible choix au troisième tour en 2016. Si Jágr n'est donc plus, par la force des choses, une perspective d'avenir pour une équipe en reconstruction, il reste en revanche une valeur sûre dans l'immédiat, ce dont il est d'ailleurs bien conscient, comme il l'avait confié il y a quelques jours de cela, avant encore son échange à un collègue de la radio tchèque en reportage à New Jersey.
Je suis un professionnel quoi qu'il arrive. Mon boulot est de faire les meilleurs matchs possibles. Je suis payé pour ça. C'est donc à moi d'adapter ma vie à cette fin et de faire en sorte que ce soit le cas. Même si je devais partir pour un autre club, je vais être au meilleur de ma forme pour pouvoir aider ma nouvelle équipe, quelle qu'elle soit. Je ne veux pas décevoir l'équipe qui me voudra dans ses rangs.
En attendant de voir sur la durée de la vingtaine de matchs de saison régulière qu'il reste à jouer, le joueur au numéro 68, très symbolique en République tchèque, n'a pas déçu non plus pour sa deuxième sortie dimanche soir, en inscrivant un but et en réalisant une assistance, passe décisive, lors de la victoire 4-3 des Panthers contre Tampa Bay. Malgré le peu de temps à sa disposition, Jágr semble donc déjà s'intégrer dans son nouveau collectif. Spécialiste du hockey au quotidien Sport, Pavel Barta estime d'ailleurs que la destination Florida, aussi surprenante a-t-elle pu être à son annonce, n'est peut-être pas la plus mauvaise, et ce, au moins pour deux raisons très différentes.
Il devrait jouer dans les deux premières lignes d'attaque. Il aura donc plus de temps de jeu qu'il n'en avait à New Jersey. On peut s'attendre à ce qu'il marque plus de buts et réalise de plus nombreuses assistances. Et si ce n'est pas le cas, ses anciens partenaires pourront toujours lui confirmer que la Floride est un excellent endroit pour vivre une retraite tranquille.
Pour l'heure, après deux victoires et deux premières performances plutôt convaincantes, ce n'est visiblement pas encore le choix de vie qu'a fait Jaromír Jágr. Et en République tchèque, nombreux sont les amateurs de hockey à espérer que celui qui reste un des sportifs préférés dans son pays d'origine optera le plus tard possible pour cette reconversion peinarde.
C'est déjà la fin de notre émission en langue française. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à revoir dès à présent l'ensemble de nos programmes sur notre site internet au www.radio.cz/fr. C'est Janessa Tomanova qui a eu le plaisir de vous présenter cette émission. À très bientôt, de nouveau à l'écoute de Radio Prague.